Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Des contes aborigènes de James Vance Marshall et Francis Firebrace aux éditions Circonflexe. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'album de Karl Norak, Le Petit Sorcier de la Pluie. Et comme les aborigènes ne sont pas souvent présents dans la littérature pour la jeunesse, je profite d'une demande de Valérie, l'institutrice qui a fait cette année un tour du monde avec sa classe de CE2, pour vous présenter aussi ce recueil de contes. Je vous lis tout simplement l'introduction des deux auteurs de cet ouvrage. Ces histoires figurent parmi les plus anciennes du monde, des dizaines de milliers d'années avant que Toutankhamon soit enterré dans sa pyramide, ces contes du temps du rêve se racontaient autour des feux de camp et des points d'eau du désert australien. Ils se transmettaient de bouche à oreille, car les aborigènes d'Australie ne possèdent pas de langue écrite. Cependant, il y a quelques années, un groupe de conteurs aborigènes a réuni les mythes et les légendes de son peuple et les a fait transcrire sous forme écrite. Nous remercions chaleureusement ces conteurs, en particulier June Barker de la communauté Yorta Yorta, d'avoir permis que leur travail serve de base à cet ouvrage. James Vance Marshall a donc retranscrit quelques-unes de ces histoires dans cet ouvrage qui invite à rêver d'un monde différent où l'homme lézard côtoie les babouks, les crocodiles, les cacatoès et les barramundi. On découvrira aussi pourquoi le kangourou possède une poche, pourquoi les grenouilles ne savent plus chanter et pourquoi l'ornithorynque est un animal si particulier. Je vais vous lire le conte qui s'intitule « Pourquoi les brolgas dansent ?» Jadis, au bord de la rivière Darling, vivait une fille appelée Brolga. Brolga adorait danser, mais à l'époque, les femmes et les jeunes filles n'étaient pas censées danser. C'était réservé aux hommes. Elles ne devaient que battre des mains et taper du pied. Un soir, alors que les hommes dansaient, Brolga ne put se retenir davantage. Elle bondit au milieu et se mit à danser avec eux. Au début, sa tribu fut choquée. Mais lorsqu'ils virent Brolga danser si admirablement, ils décidèrent de la laisser continuer. Bientôt, Brolga devint célèbre et les gens vinrent de toute la brousse pour la regarder danser. De nombreux hommes tombèrent amoureux d'elle et voulurent l'épouser. Mais cela n'intéressait pas Brolga. « Si je me marie, disait-elle, je devrais faire la cuisine et m'occuper des enfants. Très peu pour moi, tout ce que je désire, c'est danser. » Et parce qu'elle dansait si merveilleusement, sa tribu la laissait volontiers agir à sa guise. Toute sa tribu, à l'exception d'un vieux magicien malfaisant appelé Brouli-Brouli. Brouli-Brouli voulait Brolga pour lui tout seul. Il espionnait tous ses faits et gestes. Cela inquiétait les amis de Brolga. « Quand tu danses, lui disait-il, reste près du camp pour que nous puissions te surveiller et vérifier que ce vieillard maléfique ne t'embête pas. » Au début, Brolga faisait attention et ne dansait qu'autour de l'endroit où campait sa tribu. Mais au bout d'un moment, elle fut moins prudente, et un jour, elle partit danser à travers les plaines, sur les collines et dans le désert, loin, très loin de sa tribu. Le méchant Brouli-Brouli l'observait. Il se servit de ses pouvoirs magiques pour se transformer en tornade et s'élança à sa poursuite. Dans un grand tourbillon, il l'accueillit. « Épouse-moi, Brolga » cria-t-il. Mais Brolga répondit « Non !» « Épouse-moi » cria-t-il encore, « sinon je ne te laisserai épouser personne d'autre !»« Non » cria-t-elle, « jamais !» Furieux, le méchant vieillard utilisa sa magie pour transformer Brolga en quelque chose de complètement différent. Puis, il la laissa tomber en plein désert. En se relevant, Brolga regarda ses pieds. Oh horreur, elle n'avait plus les pieds d'une jeune fille, elle avait des pattes d'oiseau. Elle regarda ses bras et vit qu'elle avait des ailes d'oiseau. Elle sentit sa bouche et comprit qu'elle avait un bec d'oiseau. La pauvre Brolga fondit en larmes. « Je ne pourrai plus jamais danser, » songea-t-elle. Cependant, en essayant son nouveau corps, elle découvrit qu'elle pouvait danser tout aussi bien qu'avant. En vérité, maintenant qu'elle avait des ailes pour se stabiliser, elle dansait même avec encore plus de grâce. Pendant ce temps, les siens la cherchaient. Ils cherchaient à travers les plaines, les collines et le désert. « Brolga » appelait-il inlassablement. « Brolga, Brolga, où es-tu ? » Soudain, un étrange oiseau accourut vers eux et se mit à danser. Au début, ils ne la reconnurent pas. Ils s'apprêtaient à la chasser lorsqu'ils se rendirent compte que cet oiseau inconnu exécutait l'une des danses les plus sacrées de la tribu. Et magnifiquement. « Ce doit être Brolga !» s'exclamèrent-ils. « Brolga, reviens au campement avec nous. Nous nous occuperons de toi. » Depuis, on voit danser des Brolga tout autour des endroits où les aborigènes australiens établissent leur campement. Et le peuple aborigène les accueille, les nourrit et jamais ne les chasse. Les pages documentaires s'intercalent entre les contes pour présenter un animal, le kangourou, l'oiseau lyre, l'ornithorynque ou encore cette Brolga dont on vient de parler. Une fleur ou un lieu mythique comme Uluru. L'ouvrage est illustré par Francis Firebrace, artiste aborigène. À la fin de l'ouvrage sont répertoriés les symboles utilisés dans l'art aborigène et leur signification. De quoi donner envie aux enfants de dessiner à la manière d'eux. On pourra d'ailleurs profiter de cette lecture pour montrer aux enfants d'autres albums tels que « Une peinture de rêve » de Cyril Hahn chez Hatier et surtout « Sur les traces de la fourmi à miel » de Sylvie Crossman, un très bel album documentaire sur les peintres aborigènes. L'occasion de découvrir tout un monde extraordinaire, tellement différent de ce que nous connaissons.
La grande glissade de l'ours, de Richard Morris, illustré par Le Yen Pham, aux éditions Albin Michel. Un très grand format, bien nécessaire pour cet album, qui nous entraîne dans une descente de rivière échevelée, à la suite d'un gros ours curieux, rejoint par une ribambelle d'animaux tout aussi curieux que lui. Jusqu'à ce que... Ah, là voilà la formule, jusqu'à ce que... Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière cette formule, embarquez avec l'ours. Et puis, si vous n'avez pas de rivière tout près, vous trouverez bien une autre aventure à partager avec tous. Vivre ensemble, par exemple. Si vous ne comprenez pas tout ce que je vais lire, c'est qu'il y a un rapport texte-image incontournable. Donc, il vous faudra plonger dans la rivière pour suivre cette histoire du grand ours. L'ours était simplement curieux. Il ne se doutait pas de quoi la rivière était capable, ni qu'il était sur le point de vivre une aventure. Jusqu'à ce que une grenouille lui saute sur la tête. La grenouille était une renette solitaire qui cherchait des amis. Jusqu'à ce que les tortues entrent en scène. Elles essayèrent d'avertir l'ours et la grenouille que les choses pourraient mal tourner et ce qui les empêcherait de profiter du voyage. Jusqu'à ce que le castor embarque lui aussi. Oh, le castor était un capitaine né, il savait exactement où aller, mais il ne connaissait pas les méandres de la rivière. Jusqu'à ce que surgissent les ratons laveurs. Les ratons laveurs s'amusaient follement dans les virages et les tourbillons, mais ils ne savaient pas qu'il fallait être prudent. Ah, jusqu'à ce que se pointe un canard. Le canard était ravi de la vie qu'il amenait, mais jusqu'à ce que... Alors là, non, je ne vais pas plus loin. Il faut que vous alliez dans ce grand album et que vous arriviez, tout comme nos compagnons, jusqu'à ce que... Loupiote de Camille Tisserand et de Catherine Latteux aux éditions du Père Fouettard. Un album aux illustrations superbes, faites de 1000 traits en noir et blanc et gris, et quelques touches de bleu, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune louve qui trouve un bébé dans les bois un soir d'hiver. Elle ramène la petite au village et la dépose devant une maison. Mais est-ce là la famille qu'il lui faut ? 5 années plus tard, la louve, devenue mère à son tour, passe devant la maison où elle avait déposé l'enfant. La fillette se trouvait à l'arrière de l'habitation où la bête l'avait laissée. Gardant ses distances par prudence, la louve entendit une femme vociférer. « Dunaire, bon sang, nettoyer cette mangeoire ne doit pas te prendre jusqu'au soir. Dépêche-toi, Tala. Avant la nuit, tu dois encore rentrer du petit bois. » Pauvre Tala. La louve ne pouvait pas laisser l'enfant plus longtemps à ses gens. Et elle repartit bien décidée à revenir avec du renfort pour la libérer. Le lendemain, cachés à l'orée de la forêt, le loup et la louve attendaient le bon moment. La fillette apparut. La louve s'avança vers l'enfant et la petite fille, à son tour, fit quelques pas et sourit à la bête comme si elle l'avait reconnue, celle qui l'avait autrefois sauvée du froid. Alors, soudain, la femme surgit en proie à une violente colère. Mais la louve s'interposa, grogna, lui montant ses énormes crocs, tandis que le loup emportait Tala sur son dos. Aucun des villageois ne sut ce que l'enfant était devenu. Mais à l'automne suivant, quand les bois ont résonné du hurlement des loups, on a pu entendre, parmi la meute, le cri de Tala.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute !